Chapitre 12. Antonio Canaletto met le monde à l'arrêt. Mona faisait ses devoirs à la boutique, à côté de son père, qui se débattait avec un téléphone à cadran. Il s'était mis en tête de bricoler cette vieillerie pour qu'elle puisse appeler des appareils numériques. Cela faisait 2 jours qu'il n'avait pas avalé la moindre goutte de vin, parce que son porte-bouteille était presque plein et sa cave presque vide, et qu'il n'avait plus un sou de trésorerie, ni dans sa caisse, ni dans ses poches. Alors qu'il s'apprêtait à fermer les lieux, un homme entra en chantonnant. Paul n'avait pas toujours une mémoire très aguerrie de sa clientèle, mais il était certain de ne l'avoir jamais croisé. Il devait tutoyer les 80 ans et affichait un grand sourire sous un crâne chauve, des yeux bleu acier, un costume vert et beige visiblement taillé sur mesure dans un tweed de belle tenue. Sans dégager tout à fait la même chose qu'Henri, qui portait en outre d'épaisses lunettes, il appartenait à cette race d'individus d'un âge avancé qui vous écrasent d'emblée par leur capital intact d'énergie et de certitude virile.
« Je peux vous aider, monsieur ?»«
Je n'ai besoin d'aucune aide en général, mais pour la circonstance... « Je vais vous demander le prix de cette figurine. J'adore les Vertuni. Et je trouve très drôle la manière dont vous l'avez disposée toute seule. Ah, la pauvre petite !»
Mona sortit la tête de son cahier. La figurine, c'était sa trouvaille d'il y a 3 semaines, et elle lui était complètement sortie de la tête. Quant à Paul, il crut qu'on se payait la sienne. Il n'avait pas de figurine à la boutique. Et pourtant, il dut bien convenir que dans un recoin, à côté d'un cendrier, l'effigie de quelques centimètres d'un bouffon en plomb jouant des cymbales attendait patiemment de trouver un amateur.
« Elle est parfaitement charmante, » ajouta le visiteur. « Dites-moi, combien je vous dois ?»«
Eh bien, » improvisa maladroitement Paul, « c'est 10 euros. »
10 euros pour une Vertuni de cette qualité? Allons, allons. Soit vous voulez flatter mon bon plaisir, soit vous en ignorez la valeur réelle. Dans les deux cas, je suis le bénéficiaire et vous le dindon. Et comme je n'aime pas animaliser les gens, qui se comportent bien suffisamment comme des bêtes, voici les 50 euros qu'elle vaut au bas mot, mon cher ami. En outre, je n'ai que ce billet dans mon portefeuille et déteste les cartes bleues.
Je vous... Non, vous ne me l'emballez pas. C'est pour jouer tout de suite. »
Et il partit en fredonnant les mêmes notes qu'à son arrivée, à l'évidence ravi. Mona, sans souffler un seul mot, se précipita sur son père et le tira par la manche dans le fatras de l'arrière-boutique. Du doigt, toujours muette, elle lui désigna parmi l'amoncellement de vieux cartons celui qu'elle avait fait tomber et au cœur duquel s'entassaient des dizaines et des dizaines de ces petites effigies en plomb. Paul n'en revenait pas. Il ne se rappelait plus bien où il avait pu récupérer cette boîte et ignorait la valeur de son contenu. Mais elle se parait soudain des atours d'une promesse inespérée. Et Paul, jovial comme il ne l'avait pas été depuis longtemps, fondit sur le millésime restant pour célébrer la trouvaille au dîner. Sur le chemin vers l'appartement, il tenait la bouteille d'une main et de l'autre Mona, dont l'humeur balançait entre l'envie de vivre intensément ses instants de bonheur avec son père et une amertume sourde devant le vin qui la grippait. Alors, à rebours de ce que les circonstances dictaient, elle se lança.
« Papa ? »
« Dis-moi, Mona. »
« S'il te plaît, papa, on évite de fêter ça ce soir. »
Paul regarda le millésime d'un air glacé. Il comprit et rebroussa chemin pour remiser son ivresse à la cave. Il achevait ainsi une 3e journée sans boire. Le mercredi venu, le dernier du mois de janvier, tandis qu'elle déambulait à travers les galeries du Louvre, Mona eut une curieuse impression. Son grand-père sentait bien l'embarras de sa petite fille. Et tout en la conduisant sous la pyramide et à travers l'aile Sully, s'enquit à plusieurs reprises de ce qui motivait son malaise. elle finit par lui répondre qu'elle se sentait suivie, là, dans les couloirs du musée.
Suivie ? Voilà ma petite fille qui développe un syndrome paranoïaque, s'amusa intérieurement Henri. Il savait qu'il y avait environ l'équivalent d'un stade de 20 000 personnes qui fréquentaient quotidiennement les lieux, et pas loin de 10 millions de visiteurs à l'année. De quoi sentir qu'on a du monde à ses trousses, donc. Il la rassura d'un baiser et l'arrima au spectacle d'un grand canal s'écoulant parmi des palais. Un quai s'étalait sur environ 200 mètres de longueur. Il était parsemé de bateaux, dont un élégant navire d'apparat à la proue ouvragée. Sous un ciel bleu, à peine traversé de brumes blanchâtres, éveillé par un fier campanile, quelques somptueux bâtiments en pierre, de hauteur changeante, mais montant systématiquement sur deux ou trois niveaux, donnaient sur l'eau et s'y reflétaient. Le plus imposant était à la fois de style renaissant et gothique. Il combinait finesse, une vraie dentelle de marbre, et robustesse, avec un majestueux étage supérieur dont le mur plein rougeoyant formait le sommet. L'arête séparant les deux façades visibles du palais se situait presque exactement au centre du tableau. La plus petite des parois, plongeant dans la profondeur côté gauche, donnait sur une place où, suggérés par des touches chatoyantes, des gens s'affairaient au pied de deux colonnes, l'une portant un lion et l'autre un saint terrassant un dragon. Plus loin, on apercevait les dômes d'une basilique. Mais l'action du tableau se situait surtout au premier plan, sur les flots, où glissaient des embarcations en bois de petit tonnage. Tandis que le format de la toile de 47 sur 81 cm accentuait la sensation d'étirement panoramique, le point de vue se trouvait en surélévation au milieu du bassin et permettait de dominer le spectacle des marins, pêcheurs et gondoliers en plein travail. Ils se parlaient, poussaient sur leurs rames ou amarraient. Le tout bénéficiait d'une touche exceptionnellement méticuleuse qui offrait non seulement l'opportunité de distinguer quantité de personnages, mais aussi arcade après arcade, balcon après balcon, le rythme des décors. Et même, pour les plus scrupuleux, l'ondulation de chacune des infimes vaguelettes. « Veux-tu apprendre un peu d'italien, Mona ?»«
Je sais déjà dire « ciao, dadé ». »« Eh bien, laisse-moi t'apprendre le mot « veduta », qui signifie « vue ».
La veduta, c'est-à-dire la vue d'un beau site, d'un lieu ou d'un monument exceptionnel, était un genre vedette à Venise au XVIIIe siècle.
La veduta, c'est l'ancêtre de la carte postale, alors ?
Si tu veux, oui. À ceci près que les peintres qui excellaient dans ce registre vendaient leurs œuvres légèrement plus chères que des cartes postales. En tout cas, le plus célèbre, qui se nommait Antonio Canaletto.
Ah ! Canaletto, ça veut dire canal, j'en suis sûr.
Quasiment. Le père d'Antonio s'appelait Bernardo Canale, ce qui signifie bien canal. Ce patronyme se rapportait à l'origine vénitienne de la famille. Car Venise est traversée par le Grand Canal, dont le bassin sous tes yeux constitue l'embouchure. Avec l'ajout du suffixe « etto », Canaletto signifierait plutôt « petit canal », mais indique surtout qu'Antonio était le descendant de Bernardo auquel il doit beaucoup. Antonio a été initié par son père à la fabrication de grands décors scéniques, et à ses côtés, il a notamment réalisé ceux des opéras du célèbre Vivaldi. Cela a dû constituer une excellente formation. Mais il en a très vite eu assez d'être traité comme un simple exécutant, et tout jeune, il s'est émancipé et a suivi sa propre voie. Henri, agitant ses grands doigts maigres, se détourna du tableau et reprit son récit en fixant sa petite fille. Antonio abandonna sa cité natale pour parcourir les 400 kilomètres de route terreuse qui la séparait de Rome en 1719-1720. En chemin, il a pu voir, au gré des régions qu'il traversait, de vieux édifices délabrés, des ruines envahies par le lierre et les hautes herbes. Enfin, arrivé à destination, il découvrit tout un mélange entre gloires antiques et modernité urbaine. Le voyage à Rome fut très propice à la rêverie, et celui qui n'était encore qu'un apprenti décorateur en tira des visions impétueuses, où il recomposait tout à sa guise, entend par là qu'il saisissait d'abord sur ses carnets, avec précision, un certain nombre de motifs à la plume, une colonnade, un grand monument, un bouquet d'arbres, comme s'il s'agissait d'un vocabulaire de base. Après quoi, selon son inspiration, il redistribuait fictivement les éléments dans sa toile et offrait donc des vues qui avaient l'air tout à fait vraies et découlaient pourtant d'une fantaisie personnelle. C'est ce qu'on appelle un capriccio en italien. Un caprice. Et ce tableau, tu dirais que c'est une vue pour de vrai ou que c'est un caprice ?
Anticipa Mona, contente de sa question.
Non, là, c'est bien une veduta. Un amateur de la Sérénissime reconnaîtra tout de suite les lieux. Venise, c'est une petite parcelle de terre en forme de poisson flottant dans une lagune et traversée par d'innombrables cours d'eau. Mais ce qui ouvre et structure la cité, c'est ce bassin qui donne sur la place Saint-Marc. Ça, c'est peut-être le complexe architectural le plus connu au monde. Si l'architecture a sa Joconde, elle est là, avec dans l'ordre, de gauche à droite, l'hôtel de la Monnaie, la bibliothèque publique, les statues sur les colonnettes de la place Saint-Marc, le palais des Doges, le pont de la Paille, la prison. Et puis, à l'arrière-plan, le campanile et bien sûr la basilique. Tous les ingrédients de la puissance sont donc regroupés ici, avec des symboles de la finance, du commerce, du savoir, de l'autorité politique et judiciaire, de la religion. Canaletto s'est situé au sud, au milieu de l'eau, à l'entrée de la ville. Et hors champ à gauche s'ouvre le grand canal, qui serpente sur près de 4 km et trace, vu du ciel, un S inversé. Cela lui permet de peindre des bateaux destinés au transport des hommes ou des cargaisons.
On dirait qu'il veut surtout rendre hommage aux richesses et aux marchands.
Figurer ce grand quai, appelé le Môle, revient en effet à peindre le dynamisme et le prestige économique de la cité. Cela faisait d'ailleurs plaisir aux collectionneurs du peintre, qui étaient bien souvent des banquiers, des grands argentiers.
Mais alors, mieux vaudrait aller admirer cette vue sur place. Si les collectionneurs vivaient à Venise, il leur suffisait de se rendre à l'endroit indiqué. Pourquoi acheter un tableau ?
D'abord, tous les collectionneurs de Canaletto n'étaient pas vénitiens. Il eut une abondante clientèle anglaise qui était enchantée d'avoir un morceau de lagune chez elle. Et surtout, même si tu étais sur place, tu ne verrais jamais rien d'aussi beau. Notre regard ne peut pas embrasser un horizon très ample. Ton angle de vision est d'environ 180 degrés. Celui du chat, en comparaison, dépasse les 280 degrés. Et je ne te parle même pas des mouches, qui ont la possibilité de voir en même temps ce qui se passe dans leur dos et devant elles. Pour transcender cette défaillance humaine, Canaletto s'emploie d'abord à des études très précises, en utilisant la fameuse caméra obscura, dont nous avons parlé au sujet de Vermeer. La sienne était portative et l'accompagnait dans les rues, mais aussi sur l'eau. Canaletto se montrait très ingénieux. Il emportait la machine avec lui, la fixait sur un bateau et retranscrivait à la plume sur des feuilles de papier les folies architecturales de sa ville. Il déplaçait le viseur de son engin d'un point de vue à un autre pour obtenir une succession de croquis qui disposaient bout à bout finissait par offrir des paysages panoramiques. Il dilatait l'espace, en somme. Théoriquement, ta vue ne te permettait pas de voir si nettement l'ensemble des bâtiments que tu as devant toi. Il te faudrait tourner les yeux ou la tête, et donc, à chaque fois, sacrifier une partie du spectacle pour en saisir une autre. Là, tout surgit en simultané, et le temps s'en trouve comme scellé. Mona se prit à songer que, grâce à Canaletto, ses yeux étaient transformés en ceux d'un chat. Puis elle examina les gondoliers et les promeneurs qui constellaient la toile.
Jusque-là, tu m'as toujours montré des peintures avec des personnages grands et bien en évidence au milieu. Là, pour une fois, ils sont vraiment tout petits. Alors oui, bien sûr, on peut toujours regarder les rameurs qui discutent, ou ceux qui amarrent. Mais on a quand même l'impression qu'il compte pour du beurre.
Tu repères là une tendance fondamentale de l'histoire de l'art. l'amenuisement progressif de la figure humaine au profit des paysages qui l'entourent. Nous en reparlerons quand nous irons voir Turner, Monet, Cézanne. Pour l'heure, sache que Canaletto pratique ici ce qu'on appelle le staffage. Cela consiste à ponctuer le tableau de personnages accessoires et dépourvus de signification symbolique. C'est l'occasion de poser des touches de couleurs équilibrées, notamment des jaunes, des blancs et des bleus, qui rappellent le ciel clair. Et regarde bien maintenant la vaste place à l'arrière-plan. Oui, il y a tellement de détails qu'on dirait que c'est un deuxième tableau qui commence. On a presque envie d'imaginer tous ces gens, de marcher avec eux. Ils ont l'air d'avoir la belle vie.
Tu as raison. L'atmosphère est si plaisante qu'on pourrait croire que cette place est simplement un lieu de promenade et de gaieté. D'ailleurs, les touristes aujourd'hui y gambadent avec insouciance, mais méfiance. Dans ce palais des doges qui domine la toile, se tenaient des procès, tombaient des sentences parfois terribles. Entre les deux colonnes du Lion et de Saint-Théodore, on exécutait les traîtres et les bandits, ou les hérétiques au bout d'une corde ou d'un coup de hache. Personne ne devait troubler la sérénissime Venise.
« Je sais qu'on tuait plus facilement avant. » Disant cela, Mona affecta un air de sérieux professoral. « Mais là, je suis sûr que l'artiste a vraiment voulu parler de la vie. Je le sens parce que la lumière est partout, qu'elle est douce et rassurante. Elle est sereine. »
« C'est vrai. Canaletto fait toujours baigner ses compositions dans une lumière très harmonieuse qui lisse les contrastes et maintient vives les zones rejetées dans l'obscurité. Techniquement, il obtient cette transparence homogène par des couches de glacis successives, grâce auxquelles même la façade ouest du palais des Doges, pourtant d'eau au soleil, brille et rougeoie. Et regarde le traitement de l'eau. Il est juste fait de toutes petites ridules blanches finement dessinées en arc de cercle par quelques poils d'un pinceau effiloché. L'espace liquide s'en trouve solidifié par une sorte de pavage minéral.
Comme s'il y avait une télécommande et qu'il mettait Venise sur pause.
C'est cela, la fluidité du commerce, celle de la nature courant de l'aube au crépuscule, celle de notre perception toujours mobile, sont figées, pétrifiées dans une révélation idéale. Canaletto a mis le monde en pause et nous invite à faire de même, non pas pour nous en extraire et méditer ou prier, il n'y a rien de mystique dans son tableau. Mais il nous rappelle qu'il faut mettre le monde à l'arrêt pour ne pas en être le jouet, pour le maîtriser, pour éviter d'en subir les innombrables caprices.
Tandis qu'Henri ménageait un long silence conclusif devant le tableau, Mona sentit que quelqu'un s'éclipsait à pas feutrés dans leur dos. Elle se retourna. Incroyable ! C'était la dame au châle vert. Celle qui les avait écoutés lorsqu'ils avaient examiné le concert champêtre de Titien. Mona en était sûre. Elle avait dû les suivre discrètement jusqu'à Canaletto. Dans quel but ? Impossible à dire.
L'enfant poussa un long soupir.